chronique du dessin, documentaire dessiné.
Bonjour à toutes et à tous. Deux biographies dessinées aujourd'hui et commençons tout de suite avec Robert Badinter, Au nom de la justice. Une biographie écrite par Jean-Yves Le Naour et dessinée par Marco. Robert Badinter, c'est l'avocat qui incarne le combat contre la peine de mort et qui figure comme conscience morale de notre pays. Jean-Yves Le Naour va revenir sur l'enfance de Robert Badinter, sur cette origine juive qui va vraiment le marquer, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque son père va être déporté, il va le rechercher, il ne le retrouvera pas, ne le reverra pas, et il exprime bien, et c'est bien dit dans la biographie, que l'origine de son et les raisons de son engagement pour la justice, pour le droit, c'est au moment de cette disparition de son père qu'il faut le trouver. Il dit « Je suis l'humilié, le fils de l'homme traqué, dépossédé de ses droits, persécuté, assassiné, et dont il ne reste rien à part le souvenir enfoui en moi. » Tout ce combat contre la peine de mort va être bien développé par les deux auteurs, et il y a ce moment important d'abord du procès Bontemps où il va commencer à poser le débat sur les peines capitales qui avaient encore lieu à cette époque des années 70, et puis sur le procès de Patrick Henry qui a marqué cette étape, puisque cet homme qui avait commis un crime abject a été condamné à la perpétuité et non pas à la peine de mort. C'est en 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, que Robert Badinter va pouvoir faire voter cette loi de l'abolition, alors que la France était un des derniers pays européens à toujours exécuter. Il a été ministre de la Justice, et il y a d'ailleurs deux pages très efficaces, les pages 78 et 79, où en deux pages, on voit tout ce que Robert Badinter a apporté à la justice et ce qui a vraiment orienté. Une des difficultés de cette biographie est qu'elle est principalement basée sur le récitatif, ce qui est assez fréquent lorsque il y a ce type d'écrit. On a vraiment un texte qui raconte, présente, analyse les moments d'un parcours, d'une vie, et qui va donc construire l'ensemble du récit. La difficulté pour la mise en image, c'est de ne pas rester illustrative, et c'est une volonté que Marco a eue en utilisant cette part symbolique du dessin qui permet de représenter avec justement ces éléments graphiques des situations qui ne sont pas un reflet d'une réalité, mais qui au contraire symbolisent une idée, une approche, un événement, et cette très grande force du dessin auquel je suis très attaché. On a du mal à être vraiment dans ces pages, dans ces doubles pages qui ne sont pas toujours affirmées et qui fait que le récitatif prend vraiment toute la place et le dessin reste trop illustratif. Il y a régulièrement une absence de cadre à la page, et cet espace dans lequel sont inscrits les cases n'est pas toujours franchement affirmé, et là aussi l'attention du lecteur s'éloigne et perd en intensité. Il y a des affaires qui ont vraiment marqué la suite de du procès de Patrick Henry et de l'abolition, et notamment il y a celui de de Philippe Maurice, qui sera le dernier condamné à mort de l'histoire française en 1980. Et c'est une personne qui va reprendre des études en prison, il va devenir docteur en histoire en 1995. Il va être libéré sous condition en 2000 et il est aujourd'hui chargé de recherche au CNRS. Et Badinter affirme: il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur. Il cite ainsi Victor Hugo, qui est un autre très grand abolitionniste. Robert Badinter, au nom de la justice, c'est un livre publié par Duno Graphique. Les 104 pages de ce récit sont au prix de 20 euros. Poursuivons avec une autre biographie, celle de Patricia Douglas, intitulée « Seule contre Hollywood, la première actrice à avoir dénoncé le système ». La biographie est basée sur l'affaire Patricia Douglas, qui est probablement le plus gros scandale jamais enterré de l'histoire d'Hollywood. Le récit. À peine âgée de 20 ans, Patricia Douglas ainsi que 120 danseuses professionnelles sont recrutées pour un tournage par la Metro-Goldwyn-Mayer. Elles sont convoquées le soir du 5 mai 1937, mais bien loin de participer au tournage prévu, les jeunes femmes se retrouvent propulsées dans une gigantesque soirée privée organisée pour les 280 représentants commerciaux. Agressée durant la soirée, Patricia Douglas décide de porter plainte contre le plus puissant studio hollywoodien. À l'époque, ce genre d'affaires se dénoue en privé à coups d'intimidation et d'arrangements financiers. Mais 80 ans avant MeToo, Patricia Douglas aura le courage d'aller jusqu'au bout. L'auteur présente ainsi le parcours de Patricia Douglas, la façon dont la Metro-Goldwyn-Mayer a essayé d'intimider, de trouver des arrangements, de corrompre, et comment Patricia Douglas a résisté, a maintenu contre vents et marées sa plainte, et qui petit à petit va pouvoir aboutir. L'auteur Halim est un illustrateur, scénariste, journaliste qui pratique aussi bien la bande dessinée que le dessin d'humour dans différents grands périodiques et qui développe son écriture dessinée. Alors, le dessin d'humour, le dessin de presse, plutôt que le dessin d'humour, marque le style de Halim pour le traitement de cette biographie dessinée. C'est un dessin à l'énergie et c'est vraiment une des caractéristiques souvent du dessin de presse, qui est rarement un dessin posé, mais qui au contraire va chercher une efficacité et une rapidité d'exécution qui souvent intensifie le propos. On est donc dans cette écriture dessinée où le style est vif, le dessin utilise le plein et le délié du pinceau et est tracé toujours avec intensité. Donc on a cette utilisation de la stylisation, de la synthèse qu'opère la bande dessinée à travers le trait, et la gestion du temps va être ce qui va caractériser la bande dessinée par rapport à l'illustration ou le dessin de presse. C'est là où Halim utilise encore des envies de pages un peu déstructurées, avec des mises en scène plutôt alambiquées, avec des cases très dans toutes les formes, et des effets de pages ou de double pages qui ont un côté visuel spectaculaire, mais qui ne servent pas spécifiquement ou plus intensément le récit. À chaque fois qu'on est plutôt dans l'émotion, dans la force de cette biographie dessinée, c'est quand le découpage est plus régulier et que le lecteur accompagne véritablement le récit avec les différents événements qui le composent. Mais qu'est-ce qui fait qu'une mise en scène plus sobre, plus régulière, va permettre d'avoir cette intensité dans la lecture? C'est cette marge que Halim va rencontrer dans son parcours, parce qu'il y a dans l'efficacité de ce récit, dans cette façon de donner à Patricia Douglas toute sa présence et de marquer ainsi notre imaginaire et notre histoire de ce qu'a apporté par exemple Me Too et notamment dans celui du cinéma. La réponse est vraiment que à chaque fois que l'effet visuel est là pour lui-même, pour montrer qu'il peut être là, eh bien à chaque fois le lecteur s'éloigne du récit. Il n'empêche que l'histoire de Patricia Douglas reste à découvrir, à connaître, tant elle a marqué ce combat contre la mentalité nocive de certains hommes et qui avait vraiment droit de citer à l'époque, qui était impuni. Et il y a derrière le combat de Patricia Douglas, un avocat qui s'est vraiment engagé dans ce combat juridique avec elle. Et comme tous les récits de justice, il y a là aussi une force, un intérêt de lecture, comme au cinéma, qui est très intense. Seule contre Hollywood, la première actrice à avoir dénoncé le système, est une biographie dessinée de Halim. C'est publié par les éditions Steinkiss. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 20 euros. Nous finissons en musique avec Jen Lee Johnson. Thank you.